Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Allô, je m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. L'état de la justice en RDC nécessite-t-il une réforme urgente? Pourquoi les propositions de loi Minaku Sakata constituent une panacée au stade actuel, comme les pense une opinion? Ces lois pourraient-elles faire face à l'indépendance de la justice et quelles sont les innovations qu'elles apportent? Parole aux auditeurs d'aujourd'hui tentera de répondre à ces questions avec le prof Gary Sakata, un des initiateurs de ces propositions de loi. Vous êtes près de 9234 à avoir été touchés par ces sujets. 1000 parmi vous ont interagi et 330 l'ont commenté et partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos débats. Participez donc en direct au 081 890 63 30 ou bien au 081 890 49 69. Vous pouvez également commenter ces sujets à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien sur notre page Facebook. Merci à Pierrot et Lamegi et à Sylvain Baouguere qui concourt à la production de cette émission. J.R. Lungembo Luabung Anji est à la présentation et à la coordination de ce programme. Bonne condition d'écoute à toutes et à tous.
Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet pa@radiookapi.net.
Professeur Gary Sakata, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut dire que la proposition de loi Minaku Sakata, dont vous êtes l'un des initiateurs, cette proposition de loi était vraiment opportune en ce moment?
Bon, merci, monsieur le journaliste, pour la question que vous me posez, question combien pertinente. Mais avant de parler de l'opportunité, permettez que je puisse rappeler que lors de son discours le 30 juin 2020, le président de la République a rappelé qu'il compte poursuivre et approfondir la réforme en cours de la justice. Vous pouvez donc vérifier ce propos à la page 14 de son discours, si on a le même format. Et il précise plutôt à la page 9 du même discours que pourvu que ces réformes ne portent atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, ni au principe de séparation de pouvoir, encore moins à la gestion du pouvoir judiciaire confié au Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez donc vous rendre compte que nos propositions ont toujours été dans les limites fixées par les présidents de la République, chefs de l'État, nonobstant les folles rumeurs qui ont circulé et continuent encore à circuler à ce propos. Je comprends que c'est le fruit du fait que beaucoup n'ont pas lu, mais ils ont plutôt suivi une vague qui a commencé par un ou deux individus.
Alors, comment voyez-vous la situation actuelle de notre justice, l'état de notre justice aujourd'hui?
Mais je voudrais d'abord revenir sur la question parce que je n'y ai pas encore répondu, c'était des propos préparatoires. Et je voudrais le préciser en disant que d'abord, il faudrait bien comprendre que le public comprenne bien qu'une proposition de loi n'est pas une loi. Il s'agit d'une mouture mise à la disposition de la plénière pour analyse et correction et n'aura à devenir loi qu'après avoir passé toutes les étapes, plénière, vote, encore deuxième lecture au Sénat.
Et pourquoi seulement maintenant?
Cour constitutionnelle. Et le chemin est encore long, donc il est donc curieux, voire suspicieux, qu'il y ait une telle levée de bouclier pour une telle proposition. Alors, pour revenir véritablement à votre question, excusez-moi, monsieur le journaliste, je voudrais dire que la question d'opportunité de cette loi doit être reprécisée ou reposée. Est-ce que l'opportunité se pose-t-elle au niveau du député initiateur, au niveau de la plénière qui la reçoit et où la vote, au niveau de la cour constitutionnelle qui déclare sa conformité, ou au niveau du président de la République qui la promulgue? Donc la question de l'opportunité est donc une question subjective parce que chaque organe à son niveau peut librement apprécier de cette opportunité. Alors, trêve de théorie, je vais passer par illustrer mon propos par un exemple. Moi, je suis élu de la circonscription de Bagata dans la province du Kwilu. Je viens des vacances parlementaires. Là, j'ai rencontré des mamans et des papas qui viennent me voir pour poser leur cas. que ici à Bagata, il y a un tribunal de paix et un parquet y rattaché. Mais puisque les gens aiment le confort des villes, il n'y a pas de juge. Donc il n'y a que un magistrat du parquet qui est là. Et il pose tout un tas de problèmes en termes d'abus de la part du magistrat. Ils affirment avoir déposé de plaintes auprès de la Chambre des disciplines provinciales et avoir réservé copie au ministre de la Justice pour entendre trouver une solution. Mais jusqu'à ce jour, la Chambre des disciplines, ce n'est pas un cas généralisé, applique une solidarité négative par corporatisme peut-être. Et le ministre de la Justice n'a aucune compétence légale prévue pour faire quelque chose en leur faveur, malgré le fait qu'il ait reçu la plainte. Alors, et vous dites, en ce moment-là, moi, en tant que député, je fais quoi? Il n'y a pas opportunité, selon vous? Il y a quand même une question qui est posée. Alors, ça, c'est le un. De deux, l'opportunité peut également être appréciée par le président de la République, parce qu'il a également la compétence, lorsqu'il reçoit une question qu'il estime, qui ne présente pas d'intérêt actuel, il peut renvoyer ça en seconde lecture pour qu'on puisse revoir la situation et pour faire avancer le cas. Et la fois dernière, je crois que la législature passée, je n'y étais pas, mais vous avez vu que certaines lois ont été remises en selle
pour une seconde lecture. Alors, professeur Gary, on doit être, pragmatique, parce que lorsque nous attendons la population monter au créneau pour rejeter ces lois, ils disent que ce n'est pas opportun parce qu'en ce moment, nous sommes en état d'urgence, ça c'est des 1, et les matières doivent être traitées au niveau du Parlement relatives à l'état d'urgence sanitaire. Ça c'est des 1. De 2, il y a eu d'autres propositions de loi qui ont été déposées au niveau de l'Assemblée nationale tout autour de la réforme de la justice. Je prends le cas de lois proposées par Delice Sanga, des lois proposées par Guy Mafuta, pour ne pas les citer, toujours pour la réforme de la justice. Pourquoi, avec empressement, le bureau a sorti directement les propositions de loi Minako et Sakata pour les soumettre à plénière ou encore en commission?
Alors, pour commencer par le premier point, je ne pense pas que l'initiative de proposer des lois par un député est suspendu pendant la période d'état d'urgence. Je crois que cette affirmation doit être corrigée. Alors, en ce qui concerne la possibilité qu'il y ait eu d'autres collègues qui ont déposé de propositions qui ne seraient pas passées, mais je crois qu'il y a toute une procédure qui est mise en place par le règlement intérieur. Mais de toute manière, ce n'est pas à moi, je ne suis pas membre du bureau pour répondre à cette question. J'ai déposé moi également.
Oui, mais c'est là où il y a eu maintenant le procès d'intention, parce qu'on s'est dit pourquoi les autres on l'a pas fait dans la précipitation, mais seulement les propositions de Minako et Sakata trouvent quand même cet écho favorable du bureau de l'Assemblée nationale.
Mais quel est le contenu? Je ne sais pas quel est le contenu des propositions de loi qui ont été déposées, notamment par les collègues que vous citez. Je ne connais pas le contenu. Moi, je fais.
Donc votre contenu ensemble est important. Avec mon collègue, donc la thèse que vous développez est très importante en ce moment.
Je ne suis pas bien. Quelle thèse?
Ce que vous proposez, il est plus important maintenant parce que ça va résoudre une question maintenant.
Mais vous avez bien entendu que le président de la République veut une réforme dans le secteur de la justice.
Mais
nous
il
également,
veut ça,
on regarde
mais il ne vous a pas demandé de le faire, de commencer uniquement
par nos électeurs.
Oui, mais vous a pas demandé de pouvoir revoir la compétence, comme vous l'avez dit, la compétence des nominations, par rapport à la situation actuelle, la compétence des nominations, des promotions et des révocations, la compétence qui était reconnue du ministre de la Justice de saisir directement la Chambre des disciplines du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi de recevoir à l'appuyation les plaintes des tiers. C'est ce que vous proposez.
Oui, monsieur le journaliste, vous savez, une partie de votre question relève de la rumeur. Nous n'avons pas, vous savez, les compétences du Conseil supérieur de la magistrature en matière, et du président de la République d'ailleurs, en matière de nomination, de révocation et des magistrats sont d'ordre constitutionnel. Et nous ne sommes pas des petits-enfants pour truc contraire à la Constitution. Bon. Donc, il n'y a jamais eu ça, c'est de la rumeur. Vous avez certainement
en termes simples.
Attendez, monsieur Joël, ça c'est important, votre question est importante. Permettez que je puisse éclairer la lanterne. les compétences de nomination, de révocation ou de pouvoir disciplinaire relèvent du Conseil supérieur de la magistrature. Et pour la révocation, naturellement, c'est le président de la République, sur proposition du Conseil. Ça, nous n'y avons jamais touché. C'est de la folle rumeur qui anime la toile et bon pour ceux qui l'aiment. Par contre, en ce qui concerne le deuxième aspect de votre question, ce qui concerne la plainte à déposer auprès de la Chambre du Conseil ou la réception en ampliation, ce n'est pas nous qui l'inventons. Ça existe déjà dans la loi. Si vous prenez les statuts de magistrat à l'article, je crois, c'est 28, vous allez bien vous rendre compte que cette disposition existe déjà depuis très longtemps, où il est autorisé, où le ministre de la Justice a compétence pour déposer une plainte, et ou bien les tiers déposer également la plainte, mais réserver copie au ministre de la Justice. Ce n'est donc pas nous qui l'avons inventé.
Mmh. Donc, c'est, vous ne l'avez pas inventé, mais quelle est l'innovation que vous avez apportée?
Alors, nous avons, au stade où nous en sommes, monsieur le journaliste, il y a plusieurs innovations. Je vous en cite les plus importantes. Alors, la première innovation, c'est le fait que nous avons créé une conférence dite des procureurs. Alors, cette conférence des procureurs, son but, ce n'est pas d'interférer en matière de justice, ce n'est pas non plus de faire concurrence avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit pour nous d'institutionnaliser le dialogue. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cadre qui permette au ministre de la Justice, ou au gouvernement plutôt, qui par la Constitution, qui est habilité à déterminer la politique nationale du gouvernement en concertation avec le président de la République, un organe qui lui permet, lui, le gouvernement, d'avoir des éléments de terrain permettant de déterminer cette politique nationale du gouvernement. C'est ainsi que nous avons pensé qu'en un certain moment, il est important que les ministres de la Justice puissent interagir avec les procureurs afin de recevoir d'eux les éléments de terrain pour la mise en place d'une politique criminelle nationale.
Mmh.
Ça, c'est la première innovation qu'on peut éventuellement. S'il y a d'autres questions, on va bien. Alors, la deuxième innovation que nous avons mise en avant, c'est en rapport avec le pouvoir d'injonction. Vous savez que légiférer, c'est créer. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, les ministres, conformément à plusieurs articles, notamment l'article 70 du Code d'organisation et compétences judiciaires, peut donner injonction au procureur général près la Cour de cassation ou au procureur général près les cours d'appel. Et il ne peut pas interférer dans l'instruction qui suivra. Donc, son mandat se limite uniquement à donner injonction.
Mais quelle sera la nature de cette injonction? Elle va dire quoi au magistrat? Il va dire quoi à la Cour de cassation, par exemple? En des termes simples.
D'abord, je vous informe que c'est pas notre position qui invente le pouvoir d'injonction. Elle existe depuis très longtemps, depuis même avant l'indépendance, j'imagine. Alors, de manière lapidaire, la note du ministre donnant injonction dit simplement, prenons par exemple le cas de l'affaire des 100 jours, dit simplement, monsieur le procureur général, près la cour d'appel ou monsieur le procureur près la cour de cassation, je vous enjoins de mener les enquêtes dans le dossier de 100 jours, point.
Comme aussi, il peut empêcher dans les tueries en Ituri.
Maintenant, la question, monsieur Joël, s'il vous plaît, la question à laquelle nous voulons répondre, c'est pas là parce que c'est déjà prévu dans la loi. Et à partir du moment où il donne injonction, il n'interfère plus, ça c'est clair. Mais notre innovation ne porte pas sur ça. C'est pas nous qui avons inventé le droit d'innovation, le droit d'injonction. Notre innovation porte sur le fait qu'adviendra-t-il si, malgré l'injonction donnée au procureur général près la Cour de cassation, celui-ci n'obtempère pas. C'est ça notre question, c'est ça l'innovation.
Et quelle est la proposition?
La proposition que nous avons souhaitée, c'est que lorsque le ministre de la Justice donne injonction au procureur général après la Cour de cassation notamment, ou principalement, et que celui-ci n'obtempère pas, le ministre est en droit de demander au Conseil supérieur de la magistrature de prendre des mesures conservatoires d'interdiction avant que la chambre de discipline ne puisse statuer au fond en vue d'éventuelles sanctions disciplinaires.
Voilà. Merci
c'est
beaucoup.
C'est pas l'innovation que nous apportons. Je trouve qu'avec une telle innovation, il n'y a, à mon avis, pas caporalisation de la justice. Bien au contraire.
Voilà. Alors, nous vous gardons à Lille. Oui, professeur Gary, nous vous gardons à Lille et l'état d'écouter les auditeurs qui nous ont rejoints. Et comme ça, on va enrichir un peu le débat. Jules, vous êtes à Bukavu et Blaise à Butembo. Et les autres qui veulent bien participer à cette émission, ils peuvent aussi débattre avec nous sur notre page Facebook ou encore composer le 081-890-6330 ou bien le 081-890-4969.
Nous tenons à rassurer nos compatriotes de garder le calme en respectant les mesures d'hygiène suivantes. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes qui toussent ou qui éternuent. Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche en cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le plus de coude ou avec un mouchoir à jeter immédiatement après utilisation.
Ceci est un message du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo.
Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Jules, vous êtes à Bukavu, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Jules. Quelle est votre réaction?
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi, bonjour aussi à tous les militants du mouvement citoyen Rien sans le peuple. Merci de m'accorder la parole, monsieur JR. C'est le temps ici de signaler que je ne suis pas un juriste, donc je ne reviendrai plus à tous les articles donc de lois de notre pays, mais à mon niveau de voir les choses, je pense que les trois propositions de loi de M. Gary Sakata et M. Oben Nakou visent à museler la justice congolaise dans la perspective des élections prochaines. Alors, moi,
vous venez de les suivre tout à l'heure. Il a développé une thèse contraire à ce que vous avancez.
Bon, il a développé ça, mais il nous dit qu'il vient de ses vacances parlementaires. Il a été consulté par sa base pour les problèmes qui est là au niveau donc la base, la population de je ne sais pas encore sa circonscription. Mais le problème c'est quoi? Ils ont proposé les trois propositions de loi. Certes, ils sont là pour faire ça. C'est leur droit et c'est leur devoir au niveau de l'Assemblée nationale. Mais si la même population ne veut pas les trois propositions proposées par leur élu, mais pourquoi les deux élus doivent toujours maintenir leurs trois propositions et ils font les trois propositions de loi pour la faveur de la population.
Oui, mais Jules, la population elle-même aussi ne doit pas rejeter sans bonne foi, ou ne doit pas rejeter sans en connaître le vrai contenu. Il faut faire le débat sur les arguments.
Oui, oui, la population ne doit pas connaître ça, mais ils ont un moyen de montrer leur mécontentement. C'est aujourd'hui, vous voyez, avec des marches pacifiques, donc partout dans le pays, même je pense que dans sa circonscription électorale, il y a des marches qui se font. Alors, nous savons que c'est une loi, donc ce sont des propositions de loi qui sont inconstitutionnelles, et il y a une juridiction compétente, donc habilitée, à montrer l'inconstitutionnalité ou la constitutionnalité de ces trois propositions de loi qui est la Cour constitutionnelle. Alors, moi, je voudrais dire à M. Gary Sakata, parce que c'est notre élu, et je suis aussi un citoyen congolais. Aujourd'hui, le Congo est comme un vase rempli d'eau. Donc, il n'a pas besoin d'augmenter même une gouttelette d'eau. Peut-être la gouttelette d'eau-là peut faire en sorte que le vase puisse se déborder. C'est le même problème avec les lois que nous avons dans notre pays. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le problème des lois, des textes, mais plutôt, ce sont les hommes qui appliquent ces textes-là, qui ne font pas. Voilà.
Donc, si je comprends bien, Jules, pour vous, c'est inopportun. Pas en ce moment, il faut qu'on l'attende parce qu'il y a d'autres problèmes. Merci beaucoup, Jules. Alors, on va prendre Blaise qui est à Boutembo. Blaise, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio de la Terre et à Boutembo.
Oui, quelle est votre contribution, Blaise?
Et en parlant de la loi de Sakata et Minaku, qui semble être le pas ici de la volonté des paisibles citoyens congolais, nous avions placé un commentaire en disant que, monsieur le journaliste, nous assistons déjà à un pays de regroupement et des intérêts politiques, tel enseigne que les lois ici votées au niveau. Les lois ici votées au niveau de l'Assemblée, ce sont des lois qui semblent ne pas respecter, bien sûr, la base qui est le principe des citoyens congolais. Or, le nécessaire pour la FDC et pour le peuple congolais, c'est d'abord le social. Mais nous assistons néanmoins à des positionnements politiques.
Merci beaucoup, Blaise, d'avoir appelé de Boutembo. Alors, Maître Blanchard, vous nous avez rejoint. Bonjour, Maître Blanchard.
Bonjour Radio Capi, bonjour aux auditeurs de la radio du monde.
Alors, permettez-moi d'abord de résumer en trois points les innovations qu'évoque professeur Gary Sakata dans les propositions de loi Minaku Sakata. Premièrement, la prérogative, comme il venait de le dire, reconnue au Conseil supérieur de la magistrature, de consulter les ministres de la justice avant la transmission des dossiers au président de la République en ce qui concerne la réhabilitation et la mise en retraite, et la démission étant organisée par la loi portant statut des magistrats. Et deuxièmement, conformer la loi à la Constitution en supprimant l'incise ainsi qu'au parquet près ces juridictions. En l'état, ces articles est manifestement contraire à la Constitution. Troisièmement, Gary évoque la prérogative reconnue au ministre de la Justice pour les fautes graves de donner injonction au procureur général près la Cour de cassation ou près la Cour d'appel. Alors, comment réagissez-vous, Maître Blanchard?
D'abord, merci beaucoup, J.R. Lungembo. Je précise qu'il y a un peu du bruit, vous allez le constater. Nous sommes là en pleine marche du peuple pour contrer les velléités dictatoriales de vouloir imposer les dirigeants au niveau de la CENI. Mais en ce qui concerne la loi 6 évoquée, la proposition de messieurs Minaku et Gary Sakata, nous estimons que, en tant que politique, ces initiateurs n'ont pas fait les choses au hasard. Ils ont voulu prendre de tournure simplement pour vouloir imposer un contrôle politique au niveau de l'appareil judiciaire, alors que cet appareil judiciaire est censé être indépendant. Parce que, comme la Constitution le dit, le pouvoir judiciaire ne peut pas être inféodé au pouvoir exécutif. Mais lorsque vous analysez la quintessence, vous entrez dans la profondeur même de la proposition des lois proposée par M. Minaku et Gary Sakata, vous sentez la couleur politique, le sentiment de vouloir contrôler justement l'appareil judiciaire. Comment pouvez-vous comprendre? Je prends juste un exemple. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé des magistrats de siège et du parquet, peut être sous l'emprise du ministre de la Justice, comme quoi, avant de prendre une disposition, de se référer au ministre de la Justice, lui qui est un membre de l'exécutif. Donc, nous estimons ici que cette loi...
Oui, Maître Blanchard, nous venons de suivre l'invité, Gary Sakata, qui dit qu'on reste juste au niveau de l'injonction. Les ministres n'interfèrent pas dans la poursuite de l'enquête.
Mais nous pensons que l'injonction doit rester une injonction positive, celle qui consiste à actionner le ministère public lorsqu'il s'agit de poursuivre une infraction, lorsqu'il s'agit de mettre en mouvement, en tout cas, ces parquets. Mais lorsqu'il s'agit d'interférer, même lorsque le Conseil de la magistrature se réunit pour prendre des dispositions au niveau administratif ou même au niveau du fonctionnement de la justice, nous estimons que ça, c'est aller outrepasser le pouvoir du ministre de la Justice. Ici, nous voulons aussi évoquer l'opportunité même de cette proposition. Parce qu'en tant que politique, nous devons dire que M. Gary Sakata et d'ailleurs Aubin Minaku, qui est un ancien magistrat, qui est le président, un ancien président de l'Assemblée nationale, il aurait pu initier ces lois, ces propositions, pendant qu'il était même en exercice ou après qu'il ait quitté la magistrature. Mais nous devons nous poser la question, pourquoi c'est seulement maintenant, alors que nous savons que en tout cas, la plateforme politique de M. Gary Sakata et de M. Minaku n'a plus le contrôle de la présidence de la République, que c'est en ce moment que ces intelligences vont se réveiller pour nous faire ce genre de propositions. Donc ici, au-delà des aspects scientifiques, nous estimons que l'opportunité même de proposition de ces lois n'y est pas. Donc ils doivent arrêter avec ces lois parce que ça, c'est simplement une stratégie de vouloir contrôler le pouvoir judiciaire comme il est prévu dans leur deal que c'est le FCC qui aura le ministère de la Justice. Ils veulent interférer, ils veulent contrôler pour interférer chaque fois lorsqu'il y a des dossiers judiciaires au niveau de ces parquets.
Oui, mais parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après 2023. Est-ce que l'FCC gardera toujours cette majorité? C'est là où nous disons que la proposition de loi, elle est impersonnelle aussi.
Non, elle est impersonnelle, mais le problème, comme je l'ai dit, c'est de l'opportunité même de ces propositions.
Et pourquoi pas maintenant?
Pourquoi pas maintenant? Parce que nous avions senti quand même un semblant d'indépendance de ces pouvoirs judiciaires. Hier, quand M. Sakata et Minaku avaient le contrôle de tout l'appareil exécutif, judiciaire et même législatif, pouvoir judiciaire semblait être un peu crispé pour prendre des initiatives. Mais à ce jour que ces pouvoirs-là, ils les partagent avec le cash, on sent plus ou moins un sentiment de sursaut d'orgueil de ces juges, et nous ne comprenons pas, pendant que les peuples sentent quand même que le juge a senti la nécessité de prendre en main leur indépendance, leur pouvoir, pour traquer toutes les personnes considérées intouchables. C'est en ce moment que M. Minaku et M. Sakata vont initier leurs propositions pour essayer simplement de bloquer l'indépendance de ces magistrats et juges du siège.
Donc ces propositions de loi sont incompatibles avec la Constitution. Ça risque d'entraver à l'indépendance de la justice.
En tout cas, ça viole l'article 120 de la Constitution de notre pays. Et ça, lorsqu'ils prennent cette initiative, nous estimons que c'est une simple provocation à notre peuple.
Merci beaucoup, Maître Blanchard de Kinshasa. Vous avez accepté d'intervenir dans cette émission. On va prendre Marie-Paul qui nous a appelé de Kisangani. Marie-Paul, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, merci. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Quelle est votre contribution, Marie-Paul?
Oui. Dans tout État démocratique, je crois que la séparation du pouvoir, c'est parmi des règles fondamentales. Et ces règles-là permettent que les institutions ou les pouvoirs publics, les pouvoirs de l'État puissent fonctionner de manière indépendante pour permettre que chaque institution arrive à en remplir les tâches qui les sont conférées par la Constitution. Alors, les propositions de Minaku et Sakata, ce sont des propositions qui violent d'abord la Constitution. Je crois qu'on a rappelé, il y a beaucoup de dispositions de la Constitution qui sont consacrées à la séparation du pouvoir. Et aussi, dans ces propositions ne contribue pas au bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état où les institutions doivent travailler de manière pour permettre justement que les choses avancent et les pays avancent. Mais ces propositions, ce sont des propositions comme nous l'avons dit autrefois. Ça est sur mesure. Pourquoi? Parce que on sait que il y a des dispositions, la justice commence à travailler, on doit justement mettre beaucoup plus l'accent pour que les gens puissent respecter la loi. Parce que dans un état sûr, les gens n'arrivent pas à respecter les lois. Les gens ne commettent des infractions pour être couverts par rapport à leur position. Et c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas. Et dans notre état, nous devons maintenant laisser les institutions travailler au point que chacun doit avoir sa part. Lorsqu'il commet une infraction, il doit absolument être interpellé et que s'il présente les moyens de défense, bien sûr, et s'il est innocent, on les laisse. Mais ces propositions-là ne contribuent à rien. Ce sont des propositions qui sont taillées sur mesure justement pour essayer de provoquer. C'est une provocation. On est en train de provoquer la population et ce sont des ballots d'essai. On est en train d'essayer si on n'est pas vigilant et on fait passer des pareilles lois, et pratiquement nous allons rester dans un État qui ne sera pas en mesure de respecter les règles démocratiques, de respecter les institutions. Et les individus vont commencer à marcher sur les institutions, et à ce moment, ça sera un État des individus États. Alors que nous voulons vraiment qu'il y ait la force de la loi, et non, la force des individus. Et toutes ces propositions n'ont pas comme vocation d'aider les pays, mais c'est justement pour essayer de foutre la merde dans les pays détruire la démocratie, détruire l'État congolais, et ce qui n'est pas une bonne chose. Je crois qu'on ne doit pas continuer à jeter plus de l'encre sur une proposition qui viole la Constitution, et si les deux initiateurs ont encore les souffles pour essayer de donner des lois, ils peuvent proposer justement des lois pour le développement, et non pour des propositions qui viennent violer la Constitution.
Merci beaucoup, Marie-Paul.
Rejeter ce genre de propositions, ça n'a rien à voir avec l'État congolais.
Voilà. Comme vos propres prédécesseurs, vous estimez que ces propositions de loi viennent violer uniquement la loi fondamentale. Alors, on retrouve notre invité, professeur Gary Sakata. Vous êtes l'initiateur de ces propositions de loi avec vos côtés, honorable Obeminaku. Vous avez suivi les uns et les autres. Quelle est votre réaction? Entendre les sentiments des uns et des autres qui ont placé les mots.
Alors, monsieur Joël, je vous remercie. Premièrement, je tiens à préciser que nous ne faisons pas de ces trois propositions de loi une question de fixation ou bien une question de vie ou de mort, parce que nous avons fait notre travail en tant que députés nationaux dans le strict respect de la Constitution. Alors, dans ce que j'ai entendu de Jules, de Blaise, de Blanchard et de Marie-Paul, j'entends une constance. La constance, c'est que ces trois propositions, disent-ils, sont inconstitutionnelles et inopportunes. Alors, je vais y revenir deux secondes. Mais avant, quand je parlais de ma circonscription, je voudrais bien dire que cela ne se pose pas qu'à ma circonscription. J'ai entendu un collègue, un élu de Kabalo, répéter la même difficulté que moi. Un élu de Haru dire la même chose, de Sekebanza la même chose, de Befale, de Dimbelenge, et partout répéter la même difficulté qu'ont nos électeurs à trouver des solutions face aux problèmes qui se posent devant la justice. Alors, lorsque d'abord les gens se mettent à ressasser que les trois propositions de loi sont inconstitutionnelles, il faudrait bien se poser la question de savoir, s'agit-il de ces trois propositions qui sont inconstitutionnelles ou de certaines dispositions de propositions qui sont inconstitutionnelles? Ça, c'est le un. De deux, mais je n'entends pas encore quelqu'un qui me dise, au regard de son contenu, que telle disposition est inconstitutionnelle. Quand j'entends tous les intervenants tout à l'heure, Jules, Blaise, Blanchard et Marie-Paul, j'entends dire que les ministres, on a prévu que les ministres de la Justice aient une emprise sur le Conseil supérieur de la magistrature. Mais où ont-ils vu ça? Où ont-ils lu ça? J'entends dire que le principe de séparation de pouvoir a été violé. Mais je ne vois dans notre texte aucune disposition qui accorde aux ministres des compétences pourtant constitutionnelles qui relèvent du Conseil supérieur de la magistrature. Je n'en vois rien. Alors, vaut mieux, c'est pour ça que j'aurais aimé, monsieur le journaliste, que vous puissiez me permettre d'avoir 5 minutes pour résumer à nouveau les trois innovations qui sont contenues dans nos propositions de loi. Je l'ai dit, je le répète, que nous n'avons touché aucune disposition, aucune compétence attribuée au Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons créé ou proposé la création de la conférence
des procureurs.
De procureurs comme étant un cadre républicain d'échange et de concertation. Donc, en quelque sorte, nous avons quitté le domaine de la palabre, appelons-le ainsi, pour institutionnaliser le dialogue. Donc, il ne sera plus possible pour le ministre de la Justice d'appeler certains de ses camarades proches qui sont procureurs pour leur demander, bon, comment peut-on adopter une politique nationale en matière criminelle? Ça sera maintenant ouvert à tous les procureurs, désirés ou non désirés par le ministre de la Justice. Et les missions que nous confions à cette conférence de procureurs, c'est quoi? D'abord, c'est que, dans un premier temps, les ministres éclaire la lanterne de tous ces magistrats sous la politique pénale arrêtée. À l'heure, ensuite, les ministres échangent et procèdent à l'évaluation de la mise en œuvre de la politique pénale nationale et à l'issue de ces assises, on procède aux recommandations qui sont mises à disposition du gouvernement pour que l'on puisse adopter ça dans le format de la politique nationale sous l'égide du président de la République. Ça, c'est le 1. De 2, nous avons dit que nous avons le principe de l'injonction du ministre à l'endroit de procureur n'est pas notre innovation. L'injonction positive existe de tout le temps. Et cette injonction positive consiste à demander au procureur général d'ouvrir une enquête dans un domaine bien déterminé. Nous n'avons pas touché à ce principe. Ce que nous voulons évaluer, c'est de nous demander lorsque le pouvoir d'injonction, lorsque l'injonction donnée à un procureur général, et spécialement celui près la Cour de cassation qui est l'autorité, appelons ça ainsi, suprême dans le domaine du parquet, ne respecte pas cette injonction. Qu'est-ce que l'on fait? Ça, c'est d'une part. D'autre part, lorsque toi, citoyen, tu as déposé plainte et que tu as réservé une ampliation au ministre de la Justice et que par une forme de solidarité négative, la Chambre des disciplines n'ouvre même pas le dossier, reste l'antenne, sachant bien que la prescription intervient selon la loi dans un an daté du dépôt de cette plainte. Qu'est-ce que le ministre peut faire? Quelle est d'ailleurs la nature juridique du fait qu'on ait prévu
Je vais juste passer un mot. Est-ce que lorsque vous parlez du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, ne pensez-vous pas que les rôles que jouent les conseils supérieurs de la magistrature est largement suffisant au lieu de rajouter avec l'injonction et là encore, si le concept n'est pas bien maîtrisé, et ça prêtera à confusion, et les gens croiront que l'injonction, ça va au-delà même de l'interférence.
Non, monsieur le journaliste, l'injonction que le ministre donne au procureur général, je répète, n'est pas notre innovation.
Alors, utilisez un autre terme.
Comment?
Peut-être utiliser un autre terme. Parce que l'injonction, à un autre jour, peut-être ça pourrait... je ne sais pas. Parce que la loi, elle est impersonnelle, mais la compréhension, nous avons vu comment les articles de disposition divisent les gens et qui vont toujours vers l'autorité compétente pour donner des explications claires. Parce que quand il y a des mots ambigus, des mots qu'on ne peut pas comprendre tout de suite, ça prête à confusion.
Mais ce mot est légal, monsieur le journaliste. C'est pas nous qui l'avons utilisé pour la première fois. Ce mot existe dans la loi, nous n'avons fait que le répéter. La relation entre le ministre de la Justice et le procureur général se passe par voie d'injonction. L'injonction, en réalité, c'est un ordre, un commandement d'ouvrir une enquête. Ça, c'est même pas moi qui l'ai dit. C'est le vocabulaire juridique de M. Cornu et consorts. L'injonction, c'est le mot consacré par les textes pour dire qu'il y a un ordre est donné au procureur général en vue d'ouvrir une enquête. C'est pas encore l'ouverture d'une enquête. Ce n'est qu'un ordre, parce que le pouvoir judiciaire appartient au magistrat et non pas au ministre. Donc l'une demande que d'ouvrir l'autre. Vous allez voir que... permettez d'abord que je termine mon idée tout à l'heure. C'est que la plainte, lorsqu'elle a été déposée, et qu'il n'y a pas de suite. Et ici, nous n'avons visé que les fautes considérées comme étant graves. En cas de faute grave, le ministre ne prend même pas des mesures conservatoires. Il demande au Conseil supérieur de la magistrature de prendre des mesures conservatoires en attendant l'ouverture du dossier. Moi, je ne vois rien d'inconstitutionnel parce que cela relève de toute manière de la loi.
Ok.
Cela relève de toute manière de la loi. Je ne vois jusque là personne ne me dit quel élément inconstitutionnel.
Voilà. On va évoluer. Il y a Maître Coco qui nous a rejoint. Maître Coco, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Trois propositions de loi, Minako et Sakata. Opportunité, constitutionnalité, c'est cela le débat.
Merci beaucoup, Gilles, et je salue aussi le professeur Sakata qui est mon professeur à l'ULK. J'ai de très bonnes relations avec lui. Mais en ce qui concerne les trois propositions de loi, je n'y mets pas dans la même longueur d'onde que le professeur. D'une part, en ce qui concerne la motivation de ces trois lois. J'ai entendu le professeur dire que la motivation, c'est pour permettre la motivation de la réforme est de permettre au vice-premier ministre et ministre de la Justice d'appliquer la politique pénale du gouvernement. Je crois que ce point de vue-là ne tient pas, parce que la politique pénale du gouvernement doit se trouver dans les textes. Et dans quels textes? Ce sont les lois que le Parlement a émis. Par exemple, concernant le mariage pour tous. Si le gouvernement voudrait qu'en RDC, qu'il y ait mariage pour tous, là, le gouvernement doit demander au gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, au Parlement, pour être beaucoup plus précis, de voter cette loi-là. Donc, la politique du gouvernement doit se trouver dans les textes et non donner une ouverture à un ministre de dire que pour appliquer la politique pénale du gouvernement, il a ce plein pouvoir-là. Et en ce moment-là, si le ministre a un tel pouvoir, il y a risque que nous puissions qu'il y ait violation du principe de la légalité des délits et des peines. De l'opportunité. Le VPM tourne à lui-même. Avant que mes professeurs Gary Sakata et Obel Minakou ne déposent leurs initiatives, le ministre lui-même avait saisi le Conseil d'État pour l'interprétation de pouvoir d'injonction. Et le Conseil d'État lui a très bien répondu que le pouvoir d'injonction consiste uniquement à ordonner l'enquête et non pour recevoir des rapports a priori, a posteriori, sur l'évolution de l'instruction préjuridictionnelle.
Alors si je comprends bien, si les ministres Tunda Yakasende a recouru à d'autres instances pour, au fait, interprétation, c'est que cela pose déjà problème. Ça pose problème d'interprétation.
Non, il n'y a pas problème, lui voudrait avoir le même pouvoir que les trois lois lui donnent aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a d'abord commencé, et comme on avait échoué à ce niveau-là, que les professeurs sont revenus en charge pour prendre ces trois initiatives. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le prof lorsque le prof dit qu'il n'y a pas de disposition qui viole la Constitution. Monsieur Chier, lorsque le ministre de la Justice intervient dans l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire, est-ce qu'il y a séparation de pouvoir à ce moment-là? L'élaboration du budget du pouvoir judiciaire est de la compétence uniquement, pouvoir exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce que vient faire le ministre de la Justice dans l'élaboration du budget? Et là, c'est là, quand le professeur dit ça, ça m'étonne. Parce que c'est à l'article 149 de la Constitution, dernier alinéa, que le pouvoir d'élaborer le budget du pouvoir judiciaire, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Quel vient faire le ministre de la Justice qui est membre de l'exécutif? C'est comme ça qu'on parle qu'il y a violation du principe de séparation de pouvoir. Deux, dans la mesure disciplinaire, c'est à l'article 152, on donne ce pouvoir-là au Conseil supérieur de la magistrature. Le pouvoir de sanctionner disciplinairement et ainsi de suite. Parce que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe de la gestion des magistrats. Qu'est-ce que vient faire le ministre de la Justice?
Alors, la conférence des procureurs.
Je termine. Troisième argument, parce que le prof a dit qu'il n'y a pas de disposition qui vient de la Constitution. Article 82. Le pouvoir de nomination, c'est un pouvoir qui revient exclusivement au président de la République. Qu'est-ce que le ministre vient faire avec des nominations provisoires ou quoi? Est-ce que à l'article 82, on parle de nominations provisoires? On dit que c'est le président qui nomme sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, en ce qui concerne le pouvoir d'injonction, ce pouvoir-là consiste uniquement sur l'ouverture d'enquête et non de faire des rapports au ministre de la Justice sur l'évolution de l'enquête, alors que l'enquête, il y a le secret de l'instruction préjudicielle. Voilà juste ce que je voulais dire.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Okoko. Il y a également la conférence des procureurs qui entre en scène. Est-ce que ce n'est pas une façon d'alourdir encore l'appareil judiciaire?
Vous avez raison, Gérard. Qu'est-ce que la conférence des procureurs vient faire que le Conseil supérieur de la magistrature ne peut pas faire?
Parce que au Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas que des juges, il y a aussi des procureurs. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que les procureurs viennent faire des conférences de gouverneurs? Et d'abord les magistrats eux-mêmes ne veulent pas. Pourquoi le pouvoir législatif voudrait-il faire cette innovation-là, qui n'en est pas une d'ailleurs.
Merci beaucoup, Maître Donatien Okoko, d'avoir accepté d'intervenir dans notre émission. Vous avez évoqué là l'inconstitutionnalité de ces propositions de loi et quelques dispositions qui violent d'ailleurs la Constitution. Et vous avez trouvé inopportune cette proposition dès lors que les VPM lui-même avait déjà tenté de pouvoir demander à d'autres instances de pouvoir interpréter le pouvoir d'injonction, c'était déjà intentionnel. Merci beaucoup. Ezekiel, vous êtes à Kananga. Bienvenue dans l'émission. Ezekiel?
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole. Quelle est votre contribution, Ezekiel?
Vraiment, c'est un sujet très pertinent et je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer tous les auditeurs de la Radio Capi et pour leur dire que vraiment, c'était un très bon sujet. Vous savez, la réforme vraiment du système judiciaire congolais, c'est une question très importante, mais qui a suscité vraiment des vives réactions. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé que les propositions de loi qui ont été déposées par nos déshonorables, que je salue d'ailleurs, Monsieur Nkaku, Ben Nkaku et Sakaka, vraiment ont prouvé qu'ils montrent qu'ils ne donnent pas beaucoup d'importance au principe d'exercice du pouvoir de Montesquieu. Savez-vous-même qu'à l'article 149, on dit bien que le pouvoir judiciaire est indépendant vraiment de deux pouvoirs, c'est-à-dire du pouvoir législatif et même du pouvoir exécutif. Donc vous allez trouver que lorsque on propose des lois qui donnent au ministre les droits, par exemple le pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire que le ministre peut sanctionner les magistrats, vous trouvez que c'est déjà une relation. On a déjà créé un pont entre le pouvoir, je peux dire, exécutif, c'est-à-dire le ministre, et le pouvoir judiciaire. Vous trouvez que là, il y a déjà l'ingérence. La politique entre déjà dans la justice. Et vous trouvez, et je profite aussi pour attaquer directement les arguments de mon cher professeur qui a parlé. Vous voyez bien que on peut faire sortir des thèmes. Parce que je trouve que cette réforme, ou bien ces propositions des lois constituent, c'est une innovation, je ne vais pas refuser, mais c'est une très mauvaise innovation parce qu'on peut manquer des sujets, on peut manquer à soutenir des thèses, mais il ne faut jamais, jamais transformer une bonne thèse. C'est la thèse de l'indépendance et de la justice. Parce que là, c'est comme si des professeurs cherchent à créer un sujet, mais qui n'a jamais existé dans le monde. Et ce n'est pas bien. Parce que il faut d'abord juger les conséquences. Lorsque vous allez faire cela, quelles seront les conséquences dans les pays? Vous allez trouver que directement la justice sera politisée et tout ne sera pas clair.
Merci parce que beaucoup, moi, Ezekiel. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'autres qui vont intervenir avant qu'on puisse conclure l'émission avec notre invité. Maître Omar, vous nous avez rejoint, vous êtes en ligne.
Oui, je suis en ligne, très cher Gilles.
Trois propositions de loi Minako et Sakata, opportunité, constitutionnalité, c'est ça les débats. Quelle est votre réaction?
Merci beaucoup, Gia Duverbe, que vous m'adjugez. Je salue le professeur Gary Sakata, qui m'a enseigné à l'UNIKIN, un excellent professeur. Par rapport à votre épineuse question, je voudrais commencer cette intervention qui est la mienne avec ce que Kiakwama a dit lorsqu'on a admis au rang des grands cordons Kengo Adondos à l'Assemblée nationale. Il a dit deux problèmes sur le Congo. C'est la pauvreté et l'ignorance. Nos partis politiques s'évertuent à conquérir les pouvoirs. Ils oublient que le plus important, c'est aussi la formation des militants à la notion de l'État. C'est aussi ça les problèmes. Moi, je pense que si les gens étaient bien nourris, bien entretenus, on ne verrait pas de marche. En Belgique, c'est un royaume, il n'y a pas d'élection du président, les gens sont à l'aise. En Chine, il n'y a pas les droits de l'homme, les gens sont à l'aise. On doit en penser. Mais aussi, j'ai parlé aussi de la connaissance. Est-ce que les gens ont pris le temps de lire ces lois pour en apprécier l'opportunité et l'urgence? Comme je l'ai dit la fois dernière, ces lois sont importantes hier. Peut-être sur le plan politique, avec les réactions des uns des autres, il se pose un problème d'opportunité, puisque la loi doit être le sentiment populaire, doit être l'expression de la volonté de tous. Les gens crient chaque jour l'article premier de notre loi fondamentale qui veut que notre État soit un état de droit. L'état de droit ne se limite pas aux faits mineurs tels que les marches sentimentales orchestrées par certains politiciens immatures, les arrestations et condamnations de quelques individus. C'est important, mais ce n'est pas seulement ça l'état de droit. L'état de droit a des épines sur lesquelles il est assis. On a notamment le respect des règles établies, et cela pas seulement par la justice. On a enfin la conformité de tout acte législatif par rapport à la loi fondamentale. Par rapport à cette question, est-ce qu'il y a opportunité? Est-ce qu'il y a un besoin? Je l'ai dit la fois dernière, Le rôle traditionnel d'un député, c'est d'initier des lois. Que des gens s'élèvent pour attaquer une proposition de loi, c'est déjà un problème sérieux d'immaturité. Alors, est-ce qu'il y a besoin, je l'ai dit la fois dernière et je l'ai dit encore aujourd'hui, les partis politiques, les leaders politiques oublient de dire à la population qu'en 2011, il y avait une révision de la Constitution qui a fait du ministre de la Justice autorité des magistrats du parquet. Qu'est-ce qui a été à la base de ça? J.R., c'est vrai, il y a des points qui fâchent dans ces différentes propositions, mais personne ne peut ignorer un acteur judiciaire sérieux comment se comporte le ministère public. Il suffit qu'un magistrat vous arrête à Kinshasa ici pour sortir, ce n'est pas moins de $500. Voilà comment on est prêt de monnayer la liberté provisoire au Congo. Si vous n'avez pas plus de 500, votre client reste même pour des fins bénins. On arrête déjà même pour des faits civils. Les conflits entre locataires et bailleurs, il se fait que vous ayez.
Voilà. Maître Mar, on ne saura pas aller plus loin avec vous. Le temps peut-être de conclure avec notre invité. Professeur Gary Sakata.
Allô, oui, je vous écoute.
Voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Après que vous ayez suivi les uns et les autres, les interventions de la population.
Alors, je continue à penser, je remercie Okoko, Ezekiel et Omar pour leurs dernières interventions. Avant que je conclue, est-ce que je peux y répondre très brièvement?
Oui, rapidement, parce que vous n'avez que 3 minutes.
Ok, donc, je voudrais d'abord penser que jusqu'alors, comme l'a dit tout à l'heure Maître Omar, très peu de gens ont lu les textes. Surtout en son état actuel. Quand j'entends Maître Koko qui a fait quand même une intervention qui se rapproche d'une lecture première du texte, j'en suis quand même fier. Mais il faudrait bien qu'il sache que ici, nous ne parlons pas de l'application de la politique pénale. Hein. Nous parlons de la définition qui est préalable à l'application. Donc, conforme à l'article 91, c'est le gouvernement qui détermine, à l'article 91 de la Constitution, il est dit que le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assure la responsabilité. Alors, nous avons voulu qu'en amont de cette définition, qu'on ne définisse pas des politiques dans des cabinets climatisés. On doit définir une politique en rapport avec les problèmes sociaux et réels qui se posent sur terrain. Donc le ministre doit recueillir en matière criminelle, doit recueillir les avis de procureur le procureur qui est à Nitour, il n'a pas la même réalité que le procureur qui est dans le Kwilu. Le procureur qui est dans le Kwilu n'a pas la même réalité que le procureur qui est à Mbandaka. Et la même chose à Kambeyaka, Mwangaï, partout. Mais non, donc, ce procureur-là, amenant une forme de politique préalable, le donne au procureur, au ministre, définit, qui amène une définition de la politique nationale. Comme ça, nous sommes du moins dans le réel et non pas dans l'abstrait. En ce qui concerne le Conseil d'État, mais le Conseil d'État a été saisi bien avant que nous ne puissions, non, a rendu son arrêt alors que nous étions déjà passés à choses, et nous n'avons pas dit le contraire. Hein. Tout ce que le Conseil d'État a dit, c'est ce qui est contenu dans notre texte. Alors, Okoko plutôt, que je connais bien, dit également que nous avons dit que le ministre de la Justice élabore. Non, ça c'est exactement ça la nécessité de la procédure parlementaire. Dans le texte, en son état, les ministres de la Justice n'élaborent pas les budgets du pouvoir judiciaire parce que cette compétence relève du Conseil supérieur de la magistrature. Ça n'existe pas. Le pouvoir disciplinaire relève uniquement du Conseil supérieur de la magistrature. Ni dans la mouture première, ni dans celle actuelle, on a donné de pouvoir disciplinaire au Conseil supérieur de la magistrature. Bon, le pouvoir de nomination des magistrats par le président de la République, ça, nous n'avons pas touché. Nous avions pensé au départ, mais je vous informe que la commission PAJ a élagué le problème. À élaguer, que l'on puisse réinstituer l'étape de magistrat provisoire. Vous vous rappelez que en 2010-2011...
Oui, malheureusement, professeur, on ne saura pas aller plus loin. Les temps, c'est de l'argent, en tout cas, sur les ondes de radio-copie.
Voilà, mais je voudrais inviter les gens à plus de lecture, à plus de culture, comme l'a dit Maître Omar en conclusion. À plus de culture, de lecture, au lieu de suivre uniquement les rumeurs.
Merci, professeur Gary Sakata. Vous êtes en même temps honorable député d'avoir accepté notre invitation pour débattre de vos propositions de loi qui font l'actualité aujourd'hui. Merci également à Sylvain Bauguere et à Pierre Lamégie qui ont concouru à la production de cette émission. J.R. Lungembo Luabung Angie était à la présentation et à la coordination de cette émission. On se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.